Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Nathalie Lévy ce soir autour de vous pour débattre de l'actualité. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Alors les grandes voix, on regarde de plus en plus près parce que l'échéance se rapproche. On est à 6 semaines du scrutin et donc on va décrypter ce qui va se passer pour ces élections municipales 2020. En tout cas la bataille qu'Emmanuel Macron a essayé de régler, cette guerre de tranchées, ces ovnis là, ces espèces de participants qui veulent en être. Il a fallu trancher dans le vif et c'est fait. Des décisions fortes ont été prises. Table rase à Biarritz, Villani exclu. On attend vendredi Édouard Philippe, évidemment. Il était temps, non ? Il était temps de taper du poing sur la table, Mickaël Darmon, Charles Villeneuve, Catherine Ney.
Mais il a mis du temps. Il était temps,
il était temps.
Mais
il était
temps. Mis du temps, sincèrement. Et c'est quand même étonnant que ce soit le président de la République qui doive trancher, ce qui montre le vide du leadership de La République En Marche. Parce qu'il y a des gens qui dirigent quand même ce parti, de toute façon. Ils ont pas mal d'arbitrages. Ces arbitrages, ils tardent à les faire, parce qu'il n'y a pas que les deux ministres. Bon, il a fallu que ce soit le président, mais ça aurait pu être quand même le Premier ministre, puisque c'était des membres du gouvernement. Or, le Premier ministre, lui aussi, de toute façon, n'a pas tranché. Donc, il a fallu remonter au président. On l'a vu pour Villani commencer à tourner. Là, de toute façon, effectivement, la décision a été prise et les deux sont rentrés au bercail.
Voilà, on est rentré dans le rang. On est rentré dans le rang pour l'instant, Mickaël Darmon.
Moi, je me souviens d'une réponse un peu lapidaire et étrange que m'a faite le président de la République lors de ses vœux, quand je lui ai posé la question s'il allait ramener la paix à Biarritz, s'il s'est retourné en me disant « je ne m'occupe pas des municipales
ouais. ».
Voilà.
Ça, c'était il y a deux semaines.
Dont acte. Évidemment, il s'occupe des municipales. Évidemment, nous sommes dans la 5e République. Tout se décide dans un seul bureau. Les choses sont simples.
Et c'est pas nouveau.
Et c'est pas nouveau, puisque on est en 5e République. Tout se décide dans le bureau de l'Élysée.
Mais comment on a pu laisser s'installer pendant tant de semaines autant de dissidences ? C'est quand même une aberration, Catherine Ney.
Autant de dissidences, c'était surtout le cas de Biarritz, qui était absolument...
Villani, ça fait quand même...
Et Villani, bon, mais à partir du moment où le président recevait Villani à l'Élysée et que l'autre, en sortant de l'Élysée, lui faisait un bras d'honneur, on ne voit pas comment il ne pouvait pas ne pas être exclu d'En Marche. Quoi. Bon, donc, il fallait un acte d'autorité. Voilà. Et puis, il y avait Biarritz, c'était quand même extraordinaire que deux ministres...
Alors, on rappelle, Jean-Baptiste Lemoyne et Didier Guillaume,
sur la liste du maire
pour Didier Guillaume,
Modem,
tourisme pour Jean-Baptiste
Lemoyne. Et qui était en troisième position, je crois, qui n'était pas tête de liste. Et le ministre de l'Agriculture, qui, lui, était tête de liste, mais... Quand on est tête de liste, c'est quand même pour être élu maire et pour quitter le gouvernement. Mmh. Donc, le projet de société de M. Guillaume, c'était de ne pas rester au gouvernement. Bon, de même, donc, là, le président a tranché, il n'y a pas de candidat, c'est un jugement de Salomon, tout le monde, pareil, exit la candidature, ils se sont inclinés. Et M. Guillaume va rester ministre de l'Agriculture. Parce qu'on estime, en haut lieu, évidemment, à l'Élysée, qu'on ne change pas de ministre de l'Agriculture si proche du salon de l'agriculture.
Exactement.
Bon, ben voilà, on en trouvera peut-être après. Oui. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le cas de Gérald Darmanin, qui, lui, est candidat pour partir et qui décide de s'en aller.
Exactement.
Et ça, moi, je connais dans l'histoire récente un seul cas où une femme avait décidé de quitter le gouvernement pour être candidate à Lille et avait dit à Lionel Jospin, Premier ministre, je m'en vais... ça ne m'intéresse plus d'être ministre. Et je trouve ça assez culotté. D'ailleurs, Darmanin a dit mais non.
Assez irrévérencieux, iriez-vous jusqu'à dire
assez,
que c'est une
non,
manière...
Non, mais ça veut dire qu'il juge que... Eh bien voilà, peut-être qu'il n'a pas le poste qu'il ambitionnait d'avoir, l'intérieur pour ne pas le nommer, peut-être qu'il s'ennuie, peut-être qu'il rêve d'un autre... Peut-être qu'il ne croit plus en Macron pour la présidentielle, j'en sais rien. Mais lui, il dit, mais vous savez, je ne crois pas que si je suis maire de Tourcoing, demain je m'ennuierai. Enfin,
mais
il
avait
s'en
dit
aller.
Macron, il avait dit Emmanuel Macron, il faut que mes ministres aillent sur le terrain, il faut qu'ils soient candidats.
Oui, c'est le paradoxe,
et
effectivement.
Le paradoxe.
Il
y en a qui s'en vont vraiment.
Il fallait que ceux qui soient hors sol jusqu'à présent puissent pouvoir s'ancrer. Ça n'est pas vraiment le cas. On voit bien qu'à Paris, beaucoup de ministres sont envoyés sur les listes de Benjamin Griveaux pour tenter soit de le conforter, soit pour essayer effectivement d'avoir une forme d'ancrage. On se retrouve là aussi dans une épure connue. On n'arrête pas de nous dire, et en particulier même le président de la République, lors de ses voeux, que les élections municipales sont des élections uniquement locales, qui ne va pas automatiquement tirer des sanctions nationales. Mais en réalité, on voit bien comment ça préoccupe effectivement le sommet de l'exécutif et comment, bien sûr, tout le monde constatera au niveau national les rapports de force qui sortiront du scrutin municipal. Et on verra dans quelle mesure on assistera à un renouveau d'une forme de clivage droite-gauche.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est les 15 et 22 février, ces élections municipales qui s'annoncent compliquées pour Emmanuel Macron. La vision de Charles Villeneuve juste après ça.
Europe 1, il est 18h39.
J'ai dit quoi? Février?
Bah oui, mais vous voyez.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme chaque jour jusqu'à 19h, le débat des grandes voix ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Alors c'est bisbille évidemment dans ces élections municipales qui arrivent à grands pas 15 et 22 mars, on a tous compris, bien entendu, Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, la fin du suspense, on n'y est pas encore. Peut-être demain soir avec Édouard Philippe, va-t-on être encore chamboulé d'une certaine manière?
Moi, je ne crois pas que le Premier ministre veuille troquer son poste de Premier ministre contre la mairie du Havre. Je crois que, simplement, c'est vrai qu'il est très attaché, il le dit, le redit, le répète en permanence, ce qui est vrai, certainement vrai, qu'il est attaché à sa ville, qu'il a gérée, d'ailleurs, très bien. Mais il ira certainement aider, justement, la liste, celle qui lui a succédé, en tout cas le maire, comme premier adjoint, peut-être, parce qu'on on se fait pas réélire maire pour finalement troquer son poste de Premier ministre, je crois pas. Ça, c'est sûr.
Alors, bon. Pourquoi tout ce bruit?
Tout ce bruit, parce tout que moi, bruit. Moi j'estime, ouais. Si vous voulez, que le vrai problème, il ne s'attache pas seulement à deux ministres qui se disputent la pièce, si vous voulez, à Biarritz. Le problème de La République En Marche, il est bien plus vaste ça sur le plan municipal. On a essayé d'injecter dans des listes un certain nombre de représentants de La République En Marche et ça marche très mal en réalité parce que les élections municipales n'ont rien à voir avec toutes les élections. C'est pas Catherine qui me dira le contraire ni Mickaël. De toute façon, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas trouver une signification obligatoire par rapport au présidentiel ou au futur présidentiel. Oui. Encore que, on verra bien, encore que. Parce que là, il y a d'autres exemples à Lyon. Ça ne marche pas très bien entre Kimfeld, de toute façon, de La République En Marche et le maire sortant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Collomb. Gérard. Ça ne marche pas très bien non plus à Bordeaux, où le successeur, le lieutenant d'Alain Juppé, a contre lui un candidat de La République En Marche, alors qu'il est adoubé, le lieutenant d'Alain Juppé, par le chef de l'État. De toute façon, le chef de l'État ne voit pas d'un mauvais œil que le successeur de Juppé soit un homme de Juppé. Bon, et y a aussi sa cloche dans pas mal de
trucs. Ça cloche quand il n'y a pas d'ancrage.
Oui,
ça cloche quand il n'y a pas d'ancrage.
Mais
c'est faux, parce que ça sonne faux.
Mais il n'y a pas d'ancrage par définition, ce parti a 4 ans. Donc par définition, il va même pas perdre les villes, il en a aucune. Donc de ce point de vue-là, l'enjeu, et c'est pour cela que ces municipales, au fond, agissent comme un révélateur des problèmes de la méthode du macronisme, qui parle en même temps, va à droite, va à gauche, fait des alliances parfois incohérentes, attrape par exemple La République En Marche, soutient le maire sortant qui a 83 ans face au Modem, qui soutient la liste de quelqu'un de plus jeune. Dans d'autres villes, il y a aussi des incohérences inverses. Donc la réalité, c'est que ces élections municipales font ressurgir les problématiques de méthode. Maintenant, en termes d'ancrage, ils ne peuvent espérer que faire entrer des conseillers municipaux pour préparer les élections sénatoriales. Voilà. Ce parti a 4 ans.
Le problème, il est là.
16 des 60 plus grandes villes avec des candidats La République En Marche dissidents, Catherine. C'est effectivement un chiffre sur lequel on peut s'interroger. Avec aussi cette absence d'ancrage, il a plié l'affaire, Emmanuel Macron. Il sait très bien que ces élections, de toute façon, elles sont ingagnable.
C'est ce que dit Mickaël. Il n'y a pas d'ancrage et il n'y a pas d'autorité dans ce parti. Donc personne n'écoute personne et tout le monde tente sa chance. Dans le fond, chaque petit En Marche qui est sur le terrain dit « Moi, je fais comme le patron qui est arrivé et qui a tout cassé. Je peux peut-être réussir la même démarche avec... Moi, je suis... je tue l'ancien monde. » C'est ça que localement, chacun veut faire. Là, on verra bien si c'est des résultats. Donc, moi, je pense que dans les municipales, je pense que le côté, les électeurs privilégient toujours ceux qui sont là depuis longtemps.
Ils
sont là.
Et puis, ils agissent en contre les personnes
On n'est pas sûr du tout. Alors, on maquille les brèmes un peu, notamment la circulaire Castaner. On décide qu'on ne va pas compter les étiquettes politiques sur les villes de moins de 9000 habitants. Si vous voulez, je sais qu'il y a un recours. On n'en connaît pas encore le résultat. Il y a pas mal de recours qui ont été introduits, on les verra. Mais c'est typiquement, si vous voulez, le maquillage des brèmes, ouais. Ce qu'on appelle maquiller les brèmes, pour essayer de toute façon d'adoucir le résultat qui ne sera pas un bon résultat.
D'arrondir, exactement.
Non, je crois qu'on peut citer aussi le cas du Modem, François Bayrou qui soutient Benjamin Griveaux, alors qu'il n'arrêtait de dire qu'il n'y croyait pas. Et Madame de Sarnez qui va être sur la liste de Patrick Lecoq, qui lui est candidat républicain. Vous voyez. Et le Modem.
Ces alliances, c'est normal, Catherine. Les alliances qui commencent à se nouer, qui prennent forme à Paris.
Ce sont des alliances un peu incohérentes. Oui, le Modem soutient Benjamin Griveaux et les candidats du Modem vont soutenir les adversaires de Benjamin Griveaux.
En plus, c'est quand même la première lieutenante de François Bayrou.
D'ailleurs, quand François Bayrou va rencontrer le président de la République, il est toujours accompagné de Madame de Sarnez. Il n'y a jamais seul.
Donc de ce point de vue-là, c'est une incohérence.
Un petit mot d'Yves qui nous appelle de Troyes. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci de prendre mon appel. Je voulais simplement intervenir sur le problème des ministres, en particulier candidats à ces municipales. Alors j'ai peut-être un point de vue minoritaire, voire iconoclaste, mais je considère que les Français sont en parfaite contradiction. En effet, à la fois, ils veulent des élus proches de la réalité du terrain, au cœur de leurs problèmes, et ils leur refusent en fait ce lien en les enfermant dans le pouvoir central. L'interdiction du cumul des mandats est, à mon sens, une véritable ineptie. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces élus, et on le ressent très bien aujourd'hui, avec l'amateurisme avéré d'un certain nombre de nouveaux ministres et de parlementaires. Ouais. Je pense pour ma part que la politique est un métier, n'en déplaise à certains beaux esprits. Cela s'apprend, se cultive dans les territoires. Les ministres disposent de cabinets et de conseillers qui peuvent parfaitement entretenir des liens étroits avec les équipes municipales, notamment dans les grandes et les moyennes villes. Alors, je pense que là, on marche sur la tête. Un grand ministre doit savoir sentir l'air aussi bien de la province que de Paris, tout à la fois.
C'est pour lui le meilleur moyen
de sentir vraiment la France.
Merci beaucoup, Yves, de nous avoir appelé ce soir de Troyes. On a été attentifs, oui.
En tout cas, moi, j'approuve parfaitement sa démonstration
qui était très étayée. Merci beaucoup à Yves. Les grandes voix restent ensemble. Dans un instant, on revient sur cette décision de justice, cette relaxe pour le cardinal Barbarin. J'attends votre lecture, bien sûr.
Il est 18h48 sur Europe 1. Le débat des grandes voix sur Europe 1 dans votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et autour de vous ce soir Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Avec la relax pour le cardinal Barbarin aujourd'hui même et ses quelques mots en conférence de presse dans la foulée, je vais aller me rendre aux côtés du pape François et je vais lui présenter ma démission.
Il a raison.
Il va y retourner, Charles Villeneuve. Il va y retourner. Il avait déjà présenté sa démission.
C'est la troisième fois.
Exactement.
En 2016, déjà, lorsque l'affaire avait éclaté, il avait été remettre. Et le pape avait dit écoutez, vous êtes coupable. Et puis, quand il y est revenu en mars dernier, lorsqu'il était. Il était condamné à 6 mois avec sursis, bien sûr, pour non-dénonciation
d'actes d'agression
sexuelle. Comme il faisait appel, le pape lui a dit attendons l'appel. Alors maintenant, l'appel, il est relaxé. Est-ce que le pape va lui dire vous restez à Lyon ? Moi, je ne pense pas qu'il puisse rester à Lyon. D'ailleurs, la conférence des évêques de France, qui a pris acte de la décision, assure le prélat de sa communion fraternelle dans cette phase nouvelle de sa vie qui s'ouvre au service du Christ de l'Église. Autrement, c'est dire adios, quoi. Tu vois,
Attendez, c'est un minimum, non, Catherine ?
C'est un minimum.
Mais je trouve que même, ils y vont mollo, non ?
Très mollo.
La décision de justice ? Je trouve que la décision de justice, étant donné ce qui s'est passé, c'est le pire moyen de convaincre tous ceux qui se sont détournés de l'Église par rapport à ce qui s'est passé. C'est même les conforter dans leur volonté de quitter l'Église. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un cardinal... c'est un peu comme, si vous voulez, un recteur d'académie ou un préfet. Il n'a pas simplement l'administration spirituelle des fidèles, il a aussi l'administration des hommes.
Et vous avez entendu peut-être François Devaux, qui était président de la Parole Libérée, victime du père Prénat, le père défroqué, qui me disait tout à l'heure « Notre société n'est pas à la hauteur du fléau des violences sexuelles. » Ça dépasse le stade de la justice, ça dépasse le stade de l'Église. Pour lui, il y a une absence de réponse de la société. Est-ce qu'effectivement, on n'est pas là ?
Est-ce que Monseigneur Barbarin n'incarne pas lui seul l'Église, qu'il ne dénonçait pas, mais tout de même, depuis 2010, quand on, des jeunes étaient, enfin, des victimes étaient venues lui raconter les sévices du père Prénat, ben, il n'avait rien dit parce qu'il les avait écoutés, mais pas dénoncé les agissements c'est à ça. La justice, parce qu'il avait reçu du Vatican, d'ailleurs, une lettre qui lui conseillait d'éviter le scandale. Vous voyez et quant à Lourdes, en mars 2016, il était interrogé sur ses affaires. Il avait dit qu'il n'avait pas couvert tout ça, mais il avait dit « Dieu, grâce à Dieu, la majorité des faits sont prescrits ». Ce « grâce à Dieu », d'ailleurs, François Ozon en a fait un film. Vous voyez, « grâce à Dieu ». Mais quand même, je veux dire, cette phrase, moi, m'avait beaucoup marquée, parce que moi, ce qui m'avait beaucoup choquée, c'est qu'on a chanté chez cet homme, quand il s'est exprimé, de la dureté, une absence d'empathie pour les victimes, et quand même, Dieu qui vous parle d'amour, moi, je pense qu'il n'écoutait pas le message du Christ.
Il faut dire les faits. Il faut dire les faits. Il a laissé pendant 5 ans au contact des enfants le même père Prénat, après l'avoir entendu. Donc il savait pertinemment ce qu'il avait commis comme acte, qui relevait, si vous voulez, du droit pénal, criminel. Et évidemment...
Mais il était au courant, d'ailleurs, il l'a dit.
La justice, quand la justice séculière n'est pas saisie, la justice de l'Église peut l'être.
Bien sûr.
Et c'est le rôle et c'est le devoir d'un cardinal, justement, de le faire.
Michaël Darmon.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que c'est vrai qu'on vit des séismes multiples et qui sont en train tous de nous faire prendre conscience à quel point la société n'est pas capable de protéger les enfants, les femmes, quand il y a des agressions face à la puissance des institutions. Vous voyez, là, on traite de l'institution, du silence, de la résistance de l'institution de l'Église.
L'omerta,
mais,
oui.
Mais l'omerta dans l'éducation nationale, on la connaît aussi. Dans le monde sportif, on est en train de la découvrir encore avec le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol. Et donc, en réalité, on est en train de vivre en ce moment une grande confrontation, une grande rupture entre la société, ses institutions. Et ça alimente... je pense, la défiance, la rupture et tout ce que l'on est en train de vivre.
C'est ça le monde qui change. On y assiste
change,
alors.
Et de ce point de vue-là, il change plutôt dangereusement parce que la fracture s'accentue.
Et il n'y a pas de bonne réponse.
Il n'y a pas de bonne réponse. Oui, et c'est comme
et
ça aussi qu'après, on donne, au fond, confiance aux extrêmes.
Non, mais la question que posait tout à l'heure M. Levaux, il allait plus loin. C'est-à-dire là, on fait de la morale. Mais... simplement, les juges sont obligés de se baser sur le droit écrit. Est-ce que le droit est au niveau, justement, de ces séismes que tu dénonces? Je ne le pense pas. Il n'est pas adapté. Et c'est aussi cette réflexion-là que doivent avoir les hommes de droit, ceux qui régissent, de toute façon, le code pénal, le code civil, le code en général.
Parce que la société change, il faut aussi que le droit s'adapte.
Voilà.
Merci beaucoup les grandes voix, en tout cas d'être venues réagir à ces sujets qui montrent malgré tout quand même l'évolution, et vous l'avez rappelé Michaël Darmon, avec ce que ça comporte aussi de manquement, l'évolution, le monde qui change. Les grandes voix, merci à vous. On continue, nous, en direct jusqu'à 20h. Europe 1.